Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est comme de s'attaquer à la rénovation d'un monument historique, ça ne se fait pas comme ça et tout le monde a un avis sur la question. C'est pourtant bien à cela que s'attaque le gouvernement et qu'il s'attelle avec la réforme du baccalauréat, examen bicentenaire, rite de passage, symbole républicain et presque accessoirement, on pourrait dire, examen scolaire qui ouvre les portes de l'enseignement supérieur. Ces propositions, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer va les faire sur la base du rapport Mathiot, l'ancien directeur de Sciences Po Lille, qui suggère entre autres de laisser une plus grande place au contrôle continu, de supprimer les filières. La réforme du bac est-elle possible? C'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Armelle Nouis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes proviseur du lycée Hélène Boucher, c'est dans le 20e arrondissement de Paris, dans le nord de la capitale. Co-auteur de deux études pour la fondation Terra Nova intitulées « Comment sauver le bac » et la dernière en date, « Notes sur le contrôle continu ». Et Frédéric Rollet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du syndicat national des enseignements du second degré, le SNES. FSU. Première question, je le disais, le bac est un monument, un examen qui a fait ses preuves et qui a même inspiré d'autres pays. Pourquoi le réformer, Armelle Nouis?
L'objectif du bac, c'est de certifier et c'est de permettre d'orienter. Le bac actuel ne permet ni de certifier ni d'orienter les élèves dans les études supérieures. C'est la raison pour laquelle on cherche à le modifier. Mais vous l'avez très bien défini, c'est un monument historique et les propositions qui sont faites ne déboulonnent pas complètement. Elles restaurent ce monument historique, elles en gardent les grandes fondations. Donc il y a des choses intéressantes quand même.
Frédéric Rollet.
Alors, je crois que quand on parle du bac, il faut d'abord déjà mettre de côté toute une série d'idées reçues. On a en ce moment une réforme de l'accès à l'enseignement supérieur, Parcoursup, qui de fait est destinée à sélectionner les élèves, à instaurer une sélection, ou là où il n'y avait pas de sélection dans un certain nombre de formations universitaires. Donc du coup, on explique que le bac ne prépare plus et que on a beaucoup insisté, y compris dans les médias, sur les 60% d'échecs, qui est une ineptie. Il n'y a pas 60% d'échecs en licence. Il y a beaucoup de reconversion, mais on a une majorité, 80% des jeunes sortent d'enseignement supérieur avec un diplôme. La France est, de ce point de vue, meilleure que la moyenne des autres pays de l'OCDE. Donc, je crois qu'il faut, déjà,
on n'est pas à ce chiffre d'une génération.
Partir d'un bilan honnête. Après, qu'il faille faire évoluer le baccalauréat, bien entendu, mais en lui gardant, ce qui pour nous est fondamental, son rôle de premier grade universitaire et donc de ticket d'accès à l'enseignement supérieur, ce que la réforme veut remettre en cause.
Alors, vous êtes presque en accord sur le constat, il y a des réformes à faire. Armelle Nouis, sur quels objectifs est-ce qu'il faut réformer ce baccalauréat selon vous? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Il faut faire en sorte que ce baccalauréat, déjà, permette aux élèves de mieux se connaître et de mieux préparer l'avenir. Je redis qu'il y a effectivement 40% seulement des jeunes qui rentrent en licence. C'est pas de l'ensemble des jeunes, mais 40% des jeunes qui rentrent en licence, qui obtiennent une licence en 4 ans. Donc ça fait 60% d'échecs des jeunes qui rentrent en licence. Ça, c'est pas un faux chiffre. C'est exact. Ensuite, vous avez un certain nombre d'élèves qui arrivent pas à... Ils échouent parce que... Alors, ils se reconvertissent pour certains, ils font autre chose, mais ils n'arrivent pas à s'orienter parce qu'ils se connaissent mal. Et donc, la réforme du bac propose à la fois de modifier le baccalauréat tout en intégrant cette idée, effectivement, de mieux préparer l'avenir et de faire en sorte que les jeunes ne se perdent pas et soient plus facilement dans les filières qui leur correspondent le mieux. Changer ce bac, c'est déjà faire ça. Et la deuxième chose, c'est aussi alléger valoriser. La deuxième chose, c'est valoriser la certification. C'est-à-dire qu'un élève qui passe son bac aujourd'hui, vous ne savez pas, même s'il a le bac, quelles sont ses compétences réelles. Il n'est pas lisible. Vous ne savez pas si c'est vraiment un matheux, si c'est vraiment un littéraire, parce que le bac, il y a une compensation et parce que l'ensemble des résultats ne vous permet pas de lire le profil de l'élève. Et ça, il faut le modifier aussi.
Frédéric Rollet.
Alors, bon, je reviens à ces 80% des jeunes qui se sont inscrits dans l'enseignement supérieur. Et par exemple, ça ne choque personne qu'en PACES, dans les études de médecine ou en classe préparatoire, que sont les élites, les élèves redoublent. Mais ça choque quand il s'agit d'élèves des classes populaires, notamment, qui vont entrer dans une licence. Ensuite, la question des filières
préparatoires, c'est difficile d'entendre ça.
Il y en a moins. Vous le savez bien que c'est devenu plus en plus élitiste. Et il y en a.
C'est une raison pour laquelle il faut travailler
y a,
ça.
Il y en a justement. Après, ce qu'il faut, c'est aussi travailler la lisibilité des séries du baccalauréat.
Alors justement, c'est une des questions, une des pistes de réforme.
Mais tout ça ne suppose pas qu'on attaque, encore une fois, le baccalauréat comme délivrant, encore une fois, un passage, un ticket d'entrée dans l'enseignement supérieur grâce à des épreuves nationales, terminales et anonymes. Vous regardez ce qui a été le cas des diverses révoltes des lycéens et des étudiants. Ils disent tous, si on fait du contrôle continu, on sait très bien qu'on sera jugé sur la notoriété de l'établissement où on aura passé notre baccalauréat. Et que ça va contribuer à, évidemment, affaiblir sa force, et donc il faut plutôt travailler autrement.
Il va y avoir un bac Louis le Grand et un bac pour
le lycée.
Sûrement
pas un baccalauréat qui intègre
en zone d'éducation prioritaire.
Sûrement pas un baccalauréat qui intègre une partie des notes en contrôle continu, donc c'est la note de Terra Nova et on a essayé d'expliquer ça. Un baccalauréat qui intègre une partie des notes en contrôle continu, ça veut dire que en général, effectivement, quand il y a des lycées, je dirais à Louis le Grand, les élèves sont notés très sévèrement, ils le savent bien. Quand vous êtes dans un lycée de banlieue où la population est probablement moins bonne, effectivement, parce qu'il y a des différences entre lycées, les élèves sont mieux notés. Si vous comptez 40 ou 50% de la note, ce 40% je crois qui est prévu dans le rapport Mathieu, de la note en contrôle continu, les élèves des lycées plus fragiles ont plus de chances d'obtenir leur bac. Et le bac, c'est un diplôme, il n'est pas affiché avec l'établissement où il est. Et dans le monument historique qui est quand même prévu de garder, je rappelle qu'il reste plus de 50% de la note sous forme d'épreuves terminales qui sont dans les dominantes que l'élève aura choisies et qui permettent de définir le profil.
Alors, ce que Madame oublie de dire, c'est volontairement, je pense, c'est que c'est très lié à Parcoursup et que maintenant, ce ne sont plus les bacheliers qui vont choisir les formations dans lesquelles ils souhaitent entrer. Ce sont les universités, les différentes écoles, aussi l'enseignement supérieur, mais y compris les filières qui n'étaient pas sélectives avant, qui vont choisir. Et quand elles vont regarder... excusez-moi, mais la provenance peut avoir un effet si on n'est plus dans l'idée qu'on a des épreuves terminales qui, à un moment, modélisent ce que sont les pratiques d'évaluation, les programmes et les méthodes de travail des profs.
On a proposé des propositions là-dessus pour effectivement qu'il n'y ait pas de différence. Excusez-moi, on a fait des propositions sur cette note pour que ces différences qui puissent y avoir d'un établissement à l'autre puissent être prises en compte. On peut imaginer, par exemple, qu'un établissement où il y aurait de grands écarts entre les notes du contrôle continu et les notes du bac permettent de mesurer effectivement la sévérité de l'établissement ou au contraire sa souplesse et qu'on puisse affecter un coefficient.
Ça deviendra un coefficient comme n'importe quelle matière, c'est ça ?
On peut affecter un coefficient à l'établissement. Ça a été proposé quand on avait travaillé sur Paris pour l'affectation des élèves dans les lycées à partir de leurs notes. Comment on prend en compte, on a travaillé là-dessus, comment on prend en compte l'origine des collèges différents puisque les collèges sont différents. Il y a des propositions qui sont faites. Globalement, l'affectation des élèves par AffelNet à partir des notes soutient plutôt les élèves qui viennent d'établissements plus fragiles, qui sont plus notés plus largement que les élèves qui viennent d'établissements
moins fragiles. Juste expliquer à nos auditeurs, AffelNet, c'est le système de répartition des élèves à la sortie du collège dans les différents lycées de secteur parisien.
Voilà, exactement. Mais c'est un système qui est justement.
Mais on est dans un système très différent puisque la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans et de toute façon, il y a une obligation au service public, ce qui n'est, quand l'enseignement supérieur, c'est très différent. Si on pointe le doigt sur les problèmes, par exemple, une des critiques actuelles et qui est fondée, c'est de dire il n'y a pas assez de lisibilité des séries et de ce que le bac certifie comme savoir, puisqu'un élève qui a suivi le bac S dans la voie générale, en fait, le bac S est devenu le bac général et ne certifie pas forcément une culture scientifique. On peut travailler ça.
C'est-à-dire ça aussi, on va l'expliquer, parce que nos auditeurs qui ne se trouvent pas en France ne le savent pas forcément. Il y a une forte sélection sur l'aspect mathématique et on pousse les meilleurs élèves à aller dans la série S alors qu'ils ne sont pas forcément scientifiques.
Voilà, qui n'ont pas forcément d'appétence pour les disciplines scientifiques.
Mais on leur dit, c'est là qu'il faut aller si on est dans les bons.
Voilà, parce qu'on leur dit, mais c'est une faute de différents gouvernements aussi, parce qu'on a mal construit les formations, c'est de dire, c'est la série la plus généraliste. Donc vous faites de tout, donc ça vous ouvre toutes les portes. Donc on peut travailler là-dessus, sur par exemple les coefficients des épreuves du baccalauréat, sur le fait qu'il n'y ait pas de compensation. concentration possible entre justement les disciplines scientifiques et les autres disciplines, langue, français, histoire, géographie, etc., pour que les élèves se disent, bon, si j'entre dans un bac scientifique, enfin dans une série scientifique, c'est vraiment parce que j'ai envie d'avoir
alors,
ce type de...
Justement, l'une des idées du rapport Mathiot, c'est de supprimer les séries du baccalauréat. Est-ce que ça va, peut-être, je ne sais pas, je pose la question sans connaître la réponse, vraiment a priori, est-ce que ça va mettre fin à la prééminence des mathématiques et des séries scientifiques, ça?
Alors, dans la proposition qu'on avait fait à Terra Nova sur la reine, pour sauver le bac, on avait été beaucoup plus loin dans la proposition de modularité. Les propositions du rapport Mathiot font quand même, je dirais, trois grandes dominantes de majeures. Des majeures à dominante scientifique, à dominante littéraire et dominante technologique. Avec la possibilité pour les établissements, s'ils ont des particularités, de constituer eux-mêmes des majeures. Effectivement, ça supprimerait les filières. Parce que les filières, il y en a trois dans le général, il y en a un peu plus dans le technologique, mais du coup, on voit le général et le technologique. Et à l'intérieur du général, il y a des élèves qui pourraient composer leur majeure en fonction de leur goût, en fonction de leur motivation. On a quand même un gros problème de motivation à l'école. Et puis, ça les obligerait un petit peu, peut-être, ou ça les contraindrait à réfléchir un peu en amont à ce qu'ils veulent faire plutôt qu'à se laisser vivre. Et constituer donc des majeures et assorties de mineurs qui leur permettent de définir un profil et qui leur permettent de se constituer, je dirais, une carte de visite qui définisse, qui donne de la lisibilité au diplôme qu'ils ont. Je vais prendre un exemple. Hier soir, dans l'établissement, on avait une jeune femme du Québec qui venait présenter des études à des jeunes à qui on avait proposé de venir l'écouter. Et elle disait, attention, je vais regarder vos notes, parce que vous compensez tout, et donc vous l'avez dit, c'est un problème la compensation dans le baccalauréat, et elle est maintenue quand même dans le baccalauréat tel qu'il est proposé par le rapport Mathiot. Pour nous, c'est quand même un problème. Mais elle l'a bien dit, nous, on va regarder vos notes, parce que vous devez avoir acquis, pour arriver chez nous, à un certain niveau, dans certaines filières, si c'est les mathématiques, il faut 10. Et elle disait avec son charmant accent canadien, en fait, nous, en même temps, c'est 12. Donc, si vous voulez, elle avait l'idée des prérequis pour que les élèves réussissent, ne pas les faire venir uniquement avec leur bac, mais avec un certain nombre d'acquis en mathématiques.
Est-ce qu'on ne risque pas, Frédéric Rollet, d'avoir... une espèce de baccalauréat à la carte en supprimant les filières?
Non seulement un baccalauréat à la carte, mais d'abord, moi, je suis toujours effrayée par les discours dans lesquels on somme les jeunes de choisir très, très tôt une profession. On a des lycéens qui sont plus jeunes maintenant.
Ce n'est pas une profession, là, c'est une voie, disons.
Ils arrivent au lycée, maintenant, ils ont 15 ans pour beaucoup d'entre eux. Et beaucoup ne savent pas exactement ce qu'ils vont faire, parce que leur projet se dessine. Au fil, il y en a en plus qui ont un projet, qui vont en changer. Enfin bon, donc il faut faire attention à leur donner à la fois une dimension de culture commune importante,
ce qui est
en même temps d'aller progressivement vers une spécialisation entre la première et la terminale, et en regardant plus forcément l'identité des séries. Par exemple, ça fait déjà depuis 15 ans, on explique la série L, la série littéraire, père des élèves. Le choix a été fait, par exemple, de ne plus mettre de mathématiques en première L dans le tronc commun, c'est-à-dire obligatoire.
Ouais, ouais.
Ça contribue à décrédibiliser, à détourner, par exemple, de la série L. Donc, il y a des choses véritablement à faire, encore une fois, sur les contenus de formation. Mais si on est dans un lycée complètement modulaire, on sait très bien ce qui va se passer. On a le modèle de la Grande-Bretagne sur le sujet. C'est-à-dire que...
La Grande-Bretagne est mise à toutes les sauces.
Les déterminismes sociaux et genrés jouent à plat. On a les filles
parce
vont choisir.
Parce que là, ils jouent pas à plat, les déterminismes sociaux.
C'est encore
ils jouent
plus.
À fond,
c'est encore
Rollet.
Plus.
Ils jouent absolument
non,
à
c'est
fond.
Encore plus. Et en plus, on sait bien qu'après, il y a des parcours qui sont très valorisés et il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins.
Est-ce que tous les lycées pourront se permettre, vous êtes chef d'établissement, Armel Nuis, est-ce que tous les lycées pourront se permettre d'offrir toutes les variantes possibles de...
Non, et tous les lycées aujourd'hui ne peuvent pas offrir toutes les variantes possibles. Il faut quand même rappeler que le bac est aujourd'hui facteur de grandes inégalités sociales. Série S, ES, L, technologique, professionnelle, dans l'ordre des professions, à l'intérieur du bac général. Donc il ne faut pas dire que ça va donner lieu à beaucoup d'inégalités sociales. Ensuite, ce n'est pas un bac à la carte.
Parce que c'est déjà le cas, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Oui, absolument. Voilà. Il y a énormément d'inégalités. Ce bac est très inégalitaire. Mmh. Il y a des systèmes d'options qui rendent le bac encore plus inégalitaire. Puisque...
Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que si on prend la voie technologique,
je vais terminer sur
par
ce que
exemple,
vous
elle est à l'image de la population.
On va laisser terminer, madame. Donc,
le bac, il est prévu un tronc commun. Et sur la question, effectivement, du choix des élèves, aujourd'hui, c'est peut-être mieux que ce soit effectivement les conseils de classe et les professeurs qui choisissent à la place des élèves. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à la fin de la seconde? C'est le conseil de classe qui choisit. Si on a une multiplicité, les élèves, ils savent peut-être pas ce qu'ils veulent faire. On parle d'études et pas de profession. Mais ils savent quand même ce qu'ils aiment et là où ils sont bons. Et travailler dans des domaines qu'on aime et là où on est bon, c'est déjà plus facile que travailler dans des disciplines qui sont compliquées. Et aujourd'hui, on a un vrai problème de motivation et de sens dans les études. Donc, il y a là une question qui me paraît facile à expliquer, que pour les élèves, enfin, la notion de choix et d'individualisation des parcours, ça me paraît relever de l'intérêt de l'élève. Aujourd'hui, c'est le conseil de classe qui décide. Quand les élèves sont en difficulté, c'est pas l'élève.
Une des autres options de ce rapport Mathieu, c'est de faire un grand oral dans les examens finaux du baccalauréat. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Rollet ?
Qu'il faille développer l'oralité, mais comment ça va être préparé ? On sait aussi qu'on a des différences dans la faculté de s'exprimer et d'exprimer un contenu donc formateur, et que ça suppose là qu'il y a un gros travail en amont avec les enseignants, que donc ça suppose qu'il y ait du temps pour le faire. On a le modèle pour le coup des séries technologiques où on a un oral sur le projet, mais sur un projet qui a été construit dès la seconde avec les enseignants. Donc je ne sais pas si on va donner les moyens de le faire alors qu'on a actuellement des classes très très chargées. Quant à la notion d'appétence, bien entendu que les élèves ont des préférences sur des champs disciplinaires. Les séries le permettent, mais encore une fois, ne nous leurrons pas. Si certains n'ont pas les dimensions aussi de culture commune, ils seront barrés pour un certain nombre de
choix. Il y a un gros trou commun de 15 heures.
Plus tard.
Armène Louis, le grand oral, c'est
alors, on a le modèle des TPE. Madame Rollet prenait le modèle des filières technologiques. On a le modèle des TPE, qui est aussi une préparation. L'intérêt du grand oral, c'est une production personnelle de l'élève qui peut être préparée en groupe. Donc il y a un travail de production, il y a un travail de synthèse, il y a un travail d'oral. C'est vrai qu'il faut travailler cet oral. Je suis tout à fait d'accord sur le temps nécessaire qu'il faudra consacrer pour préparer cet oral. Mais je trouve ça une exigence. C'est notre mission de préparer les élèves à l'oral. Ça joue de plus en plus aujourd'hui dans les rencontres, dans la construction d'un CV, d'un entretien professionnel, de savoir s'exprimer, etc. Donc ça fait partie de notre mission. Il faut s'en donner les moyens. Bon, ça, j'espère qu'on s'en donnera les moyens, mais le projet est intéressant et c'est une épreuve, les TPE, quand ils sont bien menés, qui passionne les élèves. Donc moi, ça m'intéresse que les élèves terminent leur année de terminale par une épreuve qui les passionne.
Il nous reste peu de temps et donc...
Je voulais aborder le point de vue pédagogique, parce que moi, je suis prof, madame la chef de l'épreuve, je suis prof. Comment peut-on concevoir qu'à pendant un semestre, et on sait ce qu'est un semestre scolaire, avec les vacances entre-temps, etc., un élève puisse s'approprier une discipline quand il faut un certain temps, chaque discipline a sa propre méthodologie, a ses propres attendus, donc il faut déjà un certain temps. Et là, dans le projet Mathieu, au bout d'un semestre, par exemple, l'élève peut dire, bah, non, après tout, moi je change je rechange dans les semestres de terminale sur un certain nombre d'enseignements, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de morcellement, d'éparpillement des savoirs sans constitution d'apprentissage un peu solide.
Alors, on a très peu de temps en fait, je vais vous poser une question, est-ce que c'est possible de mettre en ça pour plaçant ça mettre en place ceci pour il faut que je travaille mon oralité pour la rentrée de septembre. Ça concerne les élèves qui vont rentrer en seconde en septembre.
Alors la rentrée de septembre, a priori, peu de choses vont changer. On a déjà nos dotations, on est en train de préparer la rentrée. Ça paraît difficile de changer les choses à la rentrée de septembre. En tout cas, on n'a aucune consigne là-dessus. Donc, effectivement, les changements de seconde ne devraient pas être très importants. Là-dessus, ça, je suis d'accord. Il faudrait peut-être se donner un peu de temps.
Non, le calendrier, de toute façon, est beaucoup trop contraint. Et encore une fois, faisons évoluer et les séries et le bac dans les modalités des épreuves, dans les coefficients, dans la durée. Parce qu'il y a des épreuves qui sont moins intéressantes que d'autres. Il y en a des choses à changer. Mais gardons au bac son identité.
Les choix du ministre de l'Éducation nationale, ce sera en Conseil des ministres le 14 février. On verra ce qui aura été retenu. Merci à vous d'avoir participé à cette émission, Armelle Nuis et Frédéric Rollet. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret et Déborah Lepage à la documentation. Et ce soir, à la réalisation, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver et nous podcaster sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, mais aussi sur nos applications mobiles, notamment l'appli RFI Pure Radio, rubrique émission. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.